France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Paolo Roversi. Vers 19h45, le son du jour, nous écouterons Bloodsucker de The Chisel. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier qui sera ce soir au FRAC Picardie à Amiens pour le printemps du dessin. Elle nous fera visiter entre autres l'exposition Danse macabre de David Prudhomme. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Dali Yaha à la prise de son. Bonsoir Paolo Roversi.
Bonsoir.
Vient d'ouvrir au Palais Galliera une exposition qui vous est consacrée, qui sera visible jusqu'au 14 juillet. Paris Musée en a édité le très beau catalogue, tandis que les éditions Gallimard publient votre correspondance avec le philosophe Emmanuel Ecoccia sous le titre « Lettres sur la lumière ». Voilà beaucoup de belles occasions pour vous accueillir, pour en savoir plus sur votre parcours, sur votre recherche artistique, sur vos méthodes de travail. Alors, quand même revenir sur les origines de la vocation, il faut évoquer votre enfance, petit dernier d'une fratrie de 5, père médecin qui travaille beaucoup, qui accueille tous les patients. Votre mère, elle, source de joie, qui vous réveille en chantant, qui aime déclamer des poèmes de Manzoni, qui prend des photos avec son Kodak Retina. Et puis pour vous, jeune homme, jeune Italien, il y a bien sûr, c'est normal, la passion du football. Mais il y a aussi, quand même, vous l'avez raconté, Paolo Roversi, les terreurs nocturnes, cette peur du noir, de la chambre sans lumière. À l'inverse, il y a la lumière de Ravenna di Mare, où se trouve la maison familiale, où vous allez passer vos étés. Alors, on a l'ombre et la lumière. On pourrait dire déjà qu'on a les bases de la photographie. Est-ce que vous pensez qu'on peut situer là, déjà, les origines d'une vocation, ou est-ce que je réécris un peu l'histoire ?
Non, je pense que vous avez tout à fait raison. C'est sûr que les racines sont profondes, très profondes, et tout ce que j'ai fait maintenant vient de là. C'est d'une façon ou d'une autre, toutes ces lumières, elles viennent de mon enfance, les ombres, les soleils de l'Adriatique, les pénombres des églises byzantines, et ils ont tous des lumières qui d'une façon ou d'une autre reviennent dans mon travail.
Alors,
d'une façon subconsciente.
Mais... Forcément. Oui. Alors, à 8 ans, quand même, on vous offre votre premier appareil photo. Vous faites notamment une photo de votre sœur aînée qui s'apprête à aller danser. On pourrait dire que c'est la première photo de mode, mais vous étudiez le piano, vous imaginez chef d'orchestre, pareil que vous dirigiez les disques avec l'aiguille à tricoter de maman. Maman, elle espère que vous serez avocat, mon fils avocat, forcément, mais vous racontez que la véritable naissance de la vocation, Paolo Roversi, vous l'avez lors de vacances en Espagne en 63, vous prenez une photo, un homme qui marche tout petit contre un mur blanc, vous avez un Minolta Imatic 7 à ce moment-là, qui était prêté par votre oncle. Vous l'avez encore cette photo ?
Oui, je l'ai encore, oui.
Qu'est-ce que vous avez ressenti quand elle est revenue du laboratoire, quand vous l'avez vue pour la première fois ?
Mais c'est là où j'ai compris que j'ai eu la sensation qu'on pouvait être poète aussi avec la photographie, pas seulement en écrivant des poèmes. Que la photographie pouvait avoir un côté poétique et exprimer une émotion, quelque chose. Mais cette photographie, elle est dans mon livre de Gallimard, justement, Les lettres sur la lumière.
Et puis de retour en Italie, vous allez souvent après l'école chez le photographe de quartier, Nevio Natali, qui vous apprend un peu les rudiments de base, vous prête des livres, et puis il y a aussi le film de Michelangelo Antonio, Ni Blow Up, que vous voyez quand il sort, vous avez 19 ans, c'est un photographe de mode qui en est le héros, interprété par David Hemmings, mais vous allez pourtant commencer des études de droit. Votre mère voulait que vous soyez avocat, mais vous allez vite changé, parce qu'à la fac de Bologne, il y a quand même un certain professeur Umberto Eco dans le département des arts, de la musique, du spectacle. Donc j'imagine que ça vous ouvre de nouveaux horizons.
Ah oui, complètement. Les cours d'Umberto Eco étaient vraiment magiques parce que il pouvait mélanger des cours d'histoire de l'art avec des bandes dessinées, avec des discussions sur le cinéma. C'était vraiment sur la photographie. C'était vraiment très vaste et très complet. Mmh. Et ça ouvrait des horizons à tout le monde. Mmh. C'était merveilleux de l'écouter.
Vous décidez, en 1970, d'ouvrir à Ravenne, votre ville natale, un studio photo spécialisé dans le portrait. C'est quand même une décision pas facile, vous êtes encore un tout jeune homme. Vous vous dites quand même, c'est ça que je veux faire de la photo.
Oui, j'étais passionné de photographie, justement après cette voyage en Espagne, et j'ai commencé à ouvrir dans la cave une petite chambre noire, où j'ai commencé à faire mes tirages, à développer les films, et là j'ai découvert vraiment toute la magie de la photographie, des révélateurs, des fixateurs, et de l'image qui apparaît petit à petit dans une bassine, et quand on aime ça, c'est une grande sorcellerie et en même temps un grand jeu, la photographie. Et c'est magnifique, c'est magique. Et donc je suis tombé complètement amoureux de ça. Et j'ai jamais vraiment décidé, je vais être photographe, mais petit à petit, je le suis venu malgré tout, avec les rencontres, avec cette passion qui restait là.
Alors parmi les rencontres évidemment importantes, il y a celle que vous faites alors que vous êtes... Vous visitez le peintre Mattia Moreni, vous rencontrez Peter Knapp, photographe, mais qui était à ce moment-là directeur artistique du magazine Elle. Et il vous convainc de partir, vous installer à Paris. Alors, on est en 73, vous avez quoi, 25, 26 ans, vous êtes marié, vous avez deux enfants, jeunes. Comment est-ce qu'il vous a convaincu, Peter Knapp?
Il ne m'a pas dit, viens t'installer à Paris, il m'a dit, viens, fais un voyage à Paris, viens voir à Paris, fais un saut à Paris. Mmh. Et tu vois un peu comment c'est le monde de la photographie professionnelle à Paris. Je vais te montrer et tout. Donc, je suis venu peut-être pour rester une ou deux semaines et je suis là depuis 50 ans.
Alors, qu'est-ce qui vous a fait rester alors? C'est quoi? C'est quoi le coup de foudre?
Mais non, quand je suis allé à Paris, j'étais pas du tout photographe de mode. J'étais un reporter, photographe de portraits. Et c'est à Paris que vraiment j'ai découvert la photographie de mode. Et c'est ça qui m'a fait rester, en fait. J'ai senti que c'était Paris, le monde de la mode, le centre de la mode, dans le monde peut-être, et plus que New York, que Milan, que Londres ou autre. Et c'est ça qui m'a fasciné, et je suis resté.
Alors, il y a à Paris un événement qui se produit assez tôt quand vous arrivez, que je vais vous demander de raconter dans un instant, quelque chose qui s'est passé aux Galeries Lafayette. Mais avant cela, je voudrais qu'on écoute la photographe Bettina Reims, qui était l'invitée de cette émission au mois de novembre dernier. Elle était au micro d'Antoine Léris.
Je suis devenue photographe à cause de Diane Arbus, grâce à Diane Arbus. J'ai vu une exposition de ses photos par hasard, en marchant dans la rue en Allemagne. Et j'étais complètement sonnée, j'ai acheté le catalogue, je suis rentrée à Paris, j'ai lu et relu son texte, qui est admirable, et j'ai décidé que je voulais cette vie-là. Que c'est la première fois que j'ai eu envie de la vie de quelqu'un. Je me suis dit, j'ai pas eu la même vie, hein, j'ai pas eu non plus la même carrière, j'ai pas fait les mêmes choses qu'elle, mais... Quand j'ai vu son travail, quand j'ai lu ce qu'elle écrivait, j'ai eu l'impression d'être à la maison.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, Galerie Lafayette, Paolo Roversi?
Oui, c'est très beau ce qu'il dit, Bettina, sur Diane Arbus. Moi, c'était un raconte différent. Je n'ai pas vu une expo en Allemagne. J'ai vu un livre au Galerie Lafayette. Et c'est là où j'ai découvert, j'ai pris ce livre dans la main. Et c'est là où j'ai découvert ces photos pour la première fois. Et j'étais tellement enthousiaste de ce travail, de ces photographies, que j'ai mis les livres sous mon pullover, et je suis sorti j'avais pas un centime à l'époque, et je suis sorti de Galeries Lafayette. Bien sûr, comme j'étais un voleur très inexpert, on m'a attrapé tout de suite, on m'a mis une main sur l'épaule, on m'a dit venez dans le sous-sol, et on m'a fait vider les poches et tout, parce que j'avais tout volé, et j'avais juste pris ces livres. Finalement, je plais ma femme qui a ramassé un peu d'argent, j'ai payé les livres, et voilà, j'ai pu sortir. Enfin.
Alors c'est avec et auprès du photographe anglais Lawrence Sackman que vous apprenez là encore les rudiments de la photo de mode, mais il y a une règle qu'il vous donne, bien fixer la caméra au sol mais laisser la tête très libre. Est-ce que ça c'est un conseil qui vous est resté, Paolo Roversi?
Oui, absolument, c'est un conseil qui m'est resté et que je voudrais aussi passer à tous les jeunes photographes. Parce que c'est un très bon conseil, ça veut dire que la technique est très importante, qu'il faut être très solide en technique, mais qu'il faut garder l'imagination, le cœur très libre pour être créatif.
Alors, quelques années plus tard, vous allez vous mettre à votre compte et puis vous installer votre studio près de la Porte d'Orléans. Ce studio, vous travaillez toujours. Quelle particularité il a en termes d'espace, en termes de lumière? En quoi est-ce que c'est le bon endroit pour vous?
Oui, c'est la lumière surtout. Et c'est un studio qui a été fait construire par un peintre yougoslave, Konjović, et qui s'était fait construire un architecte yougoslave aussi, qui était à l'époque assistant de Le Corbusier. Et ces deux ateliers d'artistes, un sur l'autre, avec des grands baies vitrées, des grandes fenêtres qui reçoivent la lumière du nord, la lumière des peintres, qui est magnifique, parce qu'il n'y a jamais le soleil qui rentre, mais c'est juste une lumière réfléchie, très doux, mais très intense en même temps. Et donc, pour moi, la magie de ce studio, c'est cette lumière du nord, et je suis très attaché pour ça.
Et puis 80, qui va être une année importante, Paolo Roversi. Alors déjà, vous remportez une campagne publicitaire de cosmétiques pour Dior. Bon, vous ne demandez pas d'argent, mais heureusement, après, vous allez beaucoup travailler avec cette maison. Et puis surtout, 80, c'est l'année de la commercialisation du Polaroid grand format 20-25. Là encore, coup de foudre. Il faut préciser que vous placiez ce Polaroid au dos d'une chambre d'Erdoff, grand format, à l'ancienne, soufflé, cadre en acajou. Donc c'est une technique toute moderne et quelque chose qui est un fondamental de la photographie. Qu'est-ce que ça vous a permis, cette alliance entre le Polaroid et le Derdoff?
Oui, j'ai beaucoup aimé ce mélange, comme vous dites, entre la photographie classique, une vieille chambre en bois construite en 1930, et un dos Polaroid qui venait juste... le film 20-25 de ce format venait juste d'être produit pour la première fois. Et j'ai trouvé très intéressant cette mélange de nouveau et ancien. Et ça m'a permis, c'est pour la Polaroid, de travailler avec donc un grand format, une autre façon de regarder avec deux yeux et puis avec un seul œil, de prendre beaucoup de temps de réflexion pour la photo. C'était le temps de pose plus long, tout était plus long, et ça, c'était vraiment ma façon de travailler meilleure. J'ai jamais été un photographe qui mitraille comme ça. J'ai jamais été un mitrailleur. J'étais toujours un photographe méditatif.
Alors, ça renvoie aussi, vous parlez du temps de pose, à une passion que je partage tellement avec Nicéphore Niépce, qui prend la première photo de l'histoire en 1827, le point de vue du Gras depuis la fenêtre de sa maison, Saint-Loup de Varennes, près de Chalon-sur-Saône. Vous avez vous-même réussi, quelle chance, à passer une nuit entière dans cette chambre. En quoi vous avez regardé par la fenêtre toute la nuit, Paolo Roversi?
Non, j'ai quand même dormi allongé sur le parquet au pied de la fenêtre. Et au matin, au premier rayon de soleil, je me suis levé et réveillé et j'ai commencé à prendre des photos de cet endroit sacré pour moi. Parce que c'est la fenêtre d'où a été prise la première photo de l'histoire de la photographie.
Mais pourquoi elle est aussi émouvante, cette image?
De Niépce.
Ouais.
Mais elle est émouvante parce que c'est la première et parce qu'il y a tout la... Pour la première fois, on voit le dessin du soleil arrêté sur une plaque par l'homme. Et ça, c'était des millions d'années que les hommes cherchaient, des milliers d'années en tout cas, que les hommes cherchaient d'arrêter ce dessin du soleil. Et enfin, ils arrivent avec cette magie et cette invention géniale de Niépce.
Pour revenir au Polaroid, il y a aussi ce qui est quand même une chose importante, c'est le fait que c'est... Voilà, c'est unique. Voilà. Il y a un Polaroid, oui. Il y a une image. Et dans cette image, parce que vous prenez le temps, parce que, et on en reparlera, vous parlez à vos modèles, vous les considérez comme des personnes, il y a un lien qui se crée entre elles, le plus souvent, et vous. Tout rentre dans l'image, c'est la façon dont vous vous êtes levé le matin, une musique qui a pu passer, l'humeur aussi de la personne que vous photographiez.
Oui, oui, c'est vraiment un moment de vie, et donc toute la vie autour est rentre dans l'image, et c'est pas... Elle n'est pas, la photographie, l'image, elle n'est pas abstraite de tout ce qui se passe autour dans les studios, des personnes, des états d'âme, comme vous dites, de la musique qu'on écoute, de la lumière qui rentre, qui fait dehors, s'il fait beau, s'il pleut, et voilà, tout rentre.
Et puis, bien sûr, bon, il vous a fallu venir au numérique plus tard, Paolo Roversi, mais au final, pour parvenir à des résultats assez semblables, mais pour autant ça se fait tout à fait autrement, c'est un travail complexe qui se fait après la prise de vue. Qu'est-ce que ça change pour vous ? Qu'est-ce que ça a changé pour vous, le numérique ?
Ça a changé tout et rien en même temps, parce que la technique est complètement différente, le support est complètement différent, mais ma façon de photographier est la même, mon approche à la photographie est exactement la même comme il l'a été avec toutes les techniques différentes que j'utilisais dans ma vie de photographe. Et bien sûr, j'étais tout à fait à l'aise avec mes Polaroid 25 que j'utilisais pendant 30 ans, qui étaient vraiment comme mon sang, comme ma palette de couleurs, comme ma peau. Et le numérique, c'est autre chose, mais finalement, ça rien. J'ai pas de complexe sur les techniques que j'utilise. Je suis assez libre de la technique, heureusement.
Bah oui, heureusement, mais on va le voir, parce qu'il y a une unicité aussi dans l'œuvre de Paolo Roversi qu'on peut voir en ce moment au Palais Galliera. On en parle dans un instant. On va s'arrêter d'abord sur votre choix musical, qui s'est porté sur une chanson napolitaine, Era di Maggio, qu'on va écouter chanter dans un instant par Roberto Murolo. Pourquoi ce choix, Paolo Roversi ? Pourquoi cette chanson-là ?
Oui, c'est une chanson qui m'évoque plein de choses différentes. La première, c'est ma maman qui me l'a chantée comme berceuse, parce que ma maman aimait beaucoup les chansons napolitaines. Elle avait été en voyage de noces à Sorrento, donc depuis, c'est les chansons napolitaines, c'était tous ces souvenirs de jeunesse. Et elle me rappelle bien sûr Naples, qui est une ville que j'adore, malgré que je sois de Ravenne, du Nord, j'adore Naples. Ça me rappelle tous mes amis napolitains, entre autres Eri De Luca, avec qui je chantonne souvent cette chanson quand on se retrouve ensemble. Et voilà, et j'adore aussi les mots de cette chanson qui est écrite par le poète napolitain Salvatore Di Giacomo. Et elle me touche beaucoup, cette chanson.
Elle nous parle de quoi, cette chanson ?
Ah, c'est une chanson d'amour. Elle parle de, qu'elle commence en disant c'était le mois de mai et tu avais ces magnifiques cheveux roux qui tombaient sur tes épaules et ça sentait dans les jardins, ça sentait les roses presque plus qu'à 100 pas. C'était merveilleux. Voilà, Era di Maggio.
On l'écoute.
Maggio te cade a ronzine a schiocca li cerase rosse fresca era l'aria e tutto lo giardino adorava da rosa cento passi era de maggio non un una scorda una canzone cantava ma due voci chi il tempo passa e chi non ricorda fresca era l'aria e la canzone dolce e diceva cora cora cara mia, lontana vai, tu me lassi a conto allora, chissà quando tornerai, rispondeva, tornerai. Quando tornano le rose, si stucciore torna a maggio, pur a maggio stunga qua. Si stucciore torna a maggio, pur a maggio stunga qua. Sono tornata mo come una volta, cantammo insieme la canzone antica. Passa il tempo, il mondo si vuota, ma amore vero no, non vota via. De te bellezza mia, m'innamorai, si dà ricuore d'annanza la fontana. L'acqua alla tinta non si secca mai, è ferita d'amore, non si sa. Ti dico, cora, cora, cora mia, tornati io so, torna maggio, torna amore, fa da me quello che vuoi. Torna maggio, torna amore, fa da me quello che vuoi.
Era de Maggio, choix musical de Paolo Roversi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un petit peu la version Paolo Roversi pendant qu'on l'écoutait, parce que vous ne pouvez pas ne pas la chanter en l'écoutant. Voilà,
impossible.
Impossible.
Oui, j'ai la chante en aussi.
Alors, on va revenir, bien sûr, à la pratique de votre art, Paolo Roversi, pour dire qu'une photographie de mode, c'est toujours un double portrait. Il y a la femme, le plus souvent, hein, et le vêtement. Il faut voir l'une et l'autre. Alors vous avez choisi, vous très tôt, de placer votre modèle au centre de l'image, sur un fond neutre, souvent clair, mais pas toujours. Ça, c'est quelque chose que vous avez trouvé très vite dans votre pratique ?
Oui, je l'ai trouvé très vite, et après, j'ai compris plus tard de quoi ça venait. Je pense que ça venait de l'iconographie chrétienne, catholique, de mettre toujours une figure, un saint, une madone, un Christ au milieu de l'image, et d'une façon immaculée, d'une façon très pure, dans un fond simple, et je pense que ça vient de là.
La peinture, évidemment, la peinture, qui est une source importante, parce que on peut dire que vous travaillez comme un peintre, il y a aussi cette lampe torche que vous pouvez bouger vous-même, les effets de sfumato qui viennent de la Renaissance, les contours comme ça un peu indécis de l'image. Oui. La peinture, d'une façon générale, c'est une source d'inspiration.
Oui, oui, oui. Sûrement la peinture, mais aussi le cinéma, aussi la musique, aussi la littérature. Tout est une source d'inspiration pour moi.
Vous dites, et on le comprend bien quand on voit votre travail, que ce que vous aimez, c'est le regard le regard du modèle, quand le modèle regarde l'objectif, c'est-à-dire qu'il regarde du coup le spectateur. Mais pour avoir ce regard, je l'évoquais tout à l'heure, encore faut-il avoir une relation avec la personne qui est devant votre appareil, Paolo Roversi. Et c'est vrai que les mannequins qui ont souvent posé pour vous, que ce soit Natalia Vodianova, Naomi Campbell, Kate Moss, bien sûr Kristen Owen, beaucoup d'autres, elles disent toutes que vous les regardez comme des personnes, justement. Ça demande du temps. C'est pas le temps de pause de Niepce, mais c'est quand même long. Ça se passe ou ça se passait comment, une séance avec Paolo Roversi? Vous accueillez une personne, un modèle, un mannequin, et ensuite?
Il n'y a pas de règles précises, il n'y a pas de recettes. Ça dépend, chaque fois est différent. Ça dépend un peu du modèle, justement, ça dépend de mon état d'âme, de son état d'âme. Donc chaque fois c'est un peu différent. Parfois il y a beaucoup de paroles qui rentrent en jeu, parfois c'est des grands silences. Et dans les deux cas, j'essaie de créer une harmonie, une complicité entre moi et le modèle qui me permet de saisir ses regards, de saisir son émotion intime.
Mais pour celle, je citais Kristen Owen, que vous avez photographiée sur des années et des années, il y a un lien particulier, et une séance ne peut pas ressembler à celle d'avant, mais elle est nourrie de celle d'avant aussi, non?
Oui, sûrement, oui. Quand on travaille beaucoup avec les mêmes mannequins, il se crée une espèce de complicité plus forte, ce que moi j'appelle une amitié photographique, qui est beaucoup plus forte, plus intense, et qui permet une confiance réciproque très grande et qui permet un dialogue plus profond, un dialogue photographique plus intense et plus profond.
Mais quand on fait, quand on répond à une commande, quand vous avez photographié Kate Middleton pour ses 40 ans, là, c'est une autre façon de faire. Ou est-ce qu'il faut qu'elle se plie à votre façon de faire, Paolo Roversi?
Non, c'est un autre type de rencontre. C'est sûr que c'est pas une mannequin qui vient dans mon studio. C'est moi que j'étais chez elle à Londres. Je l'ai photographiée à Kew Gardens, que c'est un très beau jardin près de Londres. Et les relations, bien sûr, étaient très différentes. Mais j'ai quand même essayé d'avoir cette même approche. Approche que j'ai avec tous mes sujets. Et je pense d'avoir réussi parce que je pense de l'avoir un peu libéré de tout ce qui était ses bijoux et ses coiffures habituelles et tout. Je l'ai fait d'une façon beaucoup plus naturelle, beaucoup plus simple. Je l'ai simplifié, disons. Et c'est ça qui est la force de ce portrait, je crois. Qu'elle est très simple et plus atemporelle aussi, je trouve.
Vous parlez de naturel, Paolo Roversi, dans une des salles du Palais Galliera, il y en a d'autres ailleurs, mais il y a une série de nus, il y a eu ce livre, Nudi. Alors, il ne s'agit pas de Kate Middleton, hein, soyons bien clairs, mais photographier un modèle nu, qu'est-ce que ça permet de voir, en fait?
Non, mais c'est... Pour moi, les portraits nus, c'est la façon la plus élégante de faire un portrait, parce que c'est la plus intemporelle et la plus pure, disons. Et donc, mais pour moi, ce sont vraiment des portraits. C'est pas des nus avec une recherche anatomique ou érotique, pas du tout. C'est juste des portraits de femmes sans vêtements, devant ma caméra, qu'il se tient devant la caméra, complètement libre et complètement sincère.
Elles sont très fortes, toutes ces photos-là, parce qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne pourrait pas voir autrement.
Oui, il y a une sincérité de part de la fille très grande.
Mais c'est parce que c'est vous, de l'autre côté de l'objectif.
Je ne sais pas. C'est toujours un échange, la photographie. C'est toujours une rencontre et un échange réciproque.
Ah oui, d'ailleurs, j'ai lu quelque part, vous disiez, on ne prend pas une photo, on la donne.
Oui. Oui, parce que je dis souvent cette phrase, parce que je pense que prendre une photographie, pour moi, c'est pas encadrer quelque chose de la réalité extérieure et l'amener dans la caméra, mais c'est plutôt réveiller quelque chose à l'intérieur de moi et le mettre à la lumière. Donc, c'est plutôt donner une photographie que la prendre.
Bon, c'est une belle expression. Et puis, dire que vous êtes, Paolo Roversi, toujours en recherche, ce qui fait que Vous n'avez pas hésité, en 1994, alors que vous étiez déjà un photographe très, très reconnu, à vous inscrire à un stage de photo pour débutants, mais il faut dire qu'il était donné par Robert Franck. Alors avant de parler de lui, on va l'écouter sur France Culture. Robert Franck, c'était en 1996, au micro de Jean Dève.
Pour moi, j'étais toujours le même photographe. Quand j'avais un job à Harper's Bazaar, alors j'ai utilisé ce que j'ai appris en Suisse, de mettre la caméra sur un tripod, de faire des images très nettes. C'était... Et quand j'avais la liberté de faire des photos qui, pour m'exprimer, ou comme je marchais dans les rues, on s'entraîne avec la photo. On fait des images, des fois on... Sont des images sans pousser plus loin, c'est pas conceptual. On est poussé par you know, your heart, ce qu'on voit, ce qu'on sent.
Par l'émotion.
Oui.
Le cœur.
Oui, plutôt que par l'intelligence. Alors, je crois que c'est le cours. De ma carrière, c'est comme ça que je suis resté le même, que j'ai pas changé mes habits vraiment.
Robert Franck, il a eu quelle importance pour vous, Paolo Roversi?
Énorme, vraiment. C'est lui qui m'a tout appris, qui m'a donné qui m'a appris la photographie, la vie, tout, vraiment énorme, parce que tout ce qu'il dit là. Il dit tout, il dit que la photographie, on l'a fait avec le cœur et pas avec la tête, et qu'il était fidèle à lui-même toute sa vie, qu'il n'a pas changé ses habits, ses habitudes,
oui.
et c'est vrai tout ça. Mmh. Et il m'a appris aussi à me contenter toujours, à manger tout ce qu'il y avait dans l'assiette sans faire des histoires. Il m'a appris à être simple, à être humble, il m'a appris beaucoup de choses, vraiment.
Est-ce que ça vous arrive, il évoquait, hein, lui, de faire parfois des photos dans la rue, hors du studio?
Rarement, parce que j'ai peur de la réalité. J'aime bien rester dans le studio avec mes mondes de rêve, d'imaginaire, et je fuis un peu la réalité. Oui.
Bon, mais on est très très bien dans votre monde, Paolo Roversi, donc merci de l'avoir créé. Mais dans le parcours d'un photographe de mode, alors il y a bien sûr les publications dans les magazines, mais qu'on contrôle pas évidemment la qualité du papier, de l'impression, et donc il y a un travail particulier à faire sur les livres, sur les expositions, on y vient dans un instant, mais les livres, ça permet de mieux contrôler, peut-être de mieux voir votre travail, c'est une dimension importante, les livres.
Oui, pour moi, très important. Chaque livre, c'est un peu une pierre, c'est une page qu'on tourne dans la vie d'un photographe, et donc c'est un peu un résumé d'une période de travail, et c'est une œuvre, chaque livre, pour moi. J'aime pas faire les livres qui sont des anthologies, des best-of. Mm. J'aime bien faire des livres qui ont une histoire, et qui racontent vraiment un moment de ma vie de photographe.
Puis il y a eu un pas de côté, on l'évoquait avant que ne commence l'émission. Vous avez photographié des oiseaux. Comment c'est venu cela?
Ça, c'est un ami à moi, Chiara Bardelli, qui avait envie d'évoquer cette histoire d'oiseau comme un autre portrait d'elle, parce qu'elle aimait beaucoup les oiseaux. Et donc, elle m'a dit, pourquoi tu ne photographies pas des oiseaux dans ton studio? Donc, j'ai fait venir un faucon, une chouette et un hibou dans mon studio, vivant, bien sûr. Et je les ai photographiés à la chambre, 25 en plus, avec des films pour la rue périmés en plus. Donc c'était vraiment un jeu d'acrobate presque. Et j'ai réussi à faire des portraits de ces oiseaux qui se posaient sur mes tabourets, sur mes petites tables. Et voilà. Mmh. Et j'ai fait un petit livre que je trouve très beau.
Mais
bon,
vous,
personnellement.
Je confirme aussi, je plus sois. Mais vous parliez d'autoportraits, justement. Alors, il y en a quelques-uns qu'on connaît, d'autoportraits de Paolo Roversi. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on ne voit pas? Est-ce que c'est une pratique que vous avez régulièrement, ou est-ce que c'est vraiment très rare?
Non, c'est assez rare, assez exceptionnel que je fasse des autoportraits, que je devienne moi-même le sujet de mon travail. Mais je n'ai fait quelques-uns. Il y en a qui sont un peu inédites et d'autres qui sont, par contre, publiés plusieurs fois. Mmh. Oui.
Bah, il y a celui dans la chambre de Niépce, par exemple, qu'on voilà. connaît. Ça, voilà. Celui-là, il fallait le faire.
Voilà.
C'était mais obligé.
Absolument. Là, c'était, il fallait commencer le film, c'est le CP très important.
Oui, complètement. Alors, je disais les livres, mais aussi les expositions. Alors, il y avait eu les rencontres d'Arles en 2008. Il y a une grande exposition monographique dans votre ville, de Ravenne, en 2021. Mais alors, concernant celle qu'on peut voir en ce moment au Palais Galliera, c'est jusqu'au 14 juillet, comment est-ce que vous avez conçu l'exposition? Comment est-ce que vous avez travaillé avec la commissaire Sylvie Lescalier?
Oui, on a commencé à chercher les images. Sylvie Lescalier est venue plusieurs fois dans mon studio. Elle a bien regardé mes archives, etc. Et puis elle voulait plutôt faire peut-être une exposition...
Rétrospective.
Rétrospective, oui.
Mais ça, moi, pas question.
L'idée de rétrospective, moi, je n'aimais pas trop, parce que je trouve que je ne suis pas encore assez vieux pour faire une exposition rétrospective. Et alors, on a cherché un peu d'autres lignes, d'autres fils conducteurs, et on a fini pour faire une sorte de journal, de toutes ces années de travail, où il y a des photos plus anciennes, des photos plus récentes, mais sans être vraiment un parcours rétrospectif et logique.
Oui, en plus, le Palais Galliera, les salles se prêtent très bien, parce qu'il y a comme des alcôves, il y a des grands espaces.
Oui, oui.
Et ça, vous l'avez travaillé très précisément en fonction des images que vous vouliez montrer.
Oui. Il y a plusieurs thèmes, plusieurs ambiances, disons. Oui.
Travail sur les lumières, très impressionnant, parce que quand on entre dans l'exposition, on est dans la pénombre dont on parlait tout à l'heure.
Oui.
Et avec ces murs rouges.
Oui. Ça, c'est les murs rouges du Palais Galliera, qui sont très beaux.
Mais éclairés comme ça, ça...
Oui, on a laissé une lumière assez pénombre, parce que ça donne plus l'atmosphère de mon studio et de mon travail.
Mais alors, j'ai lu qu'il y avait 140 photographies dans cette exposition, mais justement, les choisir dans... Bon, quand même, 50 années de pratique, par Laurent Merci, c'est quand même pas très évident. Il a fallu faire des choix. Qu'est-ce qui décide finalement? Vous disiez, vous vouliez pas une rétrospective, ça on l'entend, et qu'il y a des fils qui sont tirés, mais ce choix, il se fait comment?
Mais il se fait toujours assez. Avec le cœur, avec l'amour pour les images. On préfère une à l'autre, et voilà, c'est simple. Hein. Il y a toujours une image qui nous parle plus qu'une autre, une autre qu'on la laisse dans les tiroirs et une autre qu'on a envie d'exposer à Galliera.
Et le parcours en lui-même, justement, comme une progression, parce qu'on passe dans différentes lumières, dans différentes couleurs, dans différentes séries. Il y a aussi, et c'est très précieux, toute une vitrine où on peut voir d'autres types de documents, des livres, bien sûr, qu'on évoquait tout à l'heure, mais aussi un cahier avec des notes. C'est quoi ce cahier ?
Ça, c'est un petit cahier que je tenais au début de ma vie de photographe à Paris. Chaque fois que j'avais une petite commande, une petite photo, je faisais un petit polaroid et je la collais sur mon cahier. J'écrivais toutes les données techniques à côté, bien sûr, les mannequins, les coiffeurs, les maquilleurs, les studios où j'étais. Et voilà, c'était mon journal de bord, en fait.
Et vous avez arrêté ça?
J'ai arrêté, oui. J'ai arrêté parce qu'après, quand j'ai ouvert le studio, j'ai travaillé avec Anna, qui travaille avec moi depuis 28 ans, bientôt 30 ans, qui garde tout sur ordinateur, tout bien classé, et c'est plus facile que mon petit cahier.
Oui, mais il est très émouvant, c'est très beau de le voir dans l'exposition. et puis, je l'ai dit au début de cette émission, il y a ce livre qui est sorti, cette correspondance avec Emmanuel Coach. Alors, je me suis retenu pour l'instant, je ne voulais pas trop le lire avant notre entretien, pour éviter d'être influencé dans mes questions, mais... J'ai quand même lu un petit peu. J'ai vu d'abord que vous écriviez très bien, Paolo Roversi.
Oula,
vous avez une pratique d'écriture en plus de la pratique de la photo?
Non, pas vraiment. Non, non. Quand j'étais jeune, j'étais poète, mais j'écrivais des poèmes pas beaux. Et les photos étaient plus belles que les poèmes. Et donc, c'est pour ça que j'ai viré sur la photographie. Mais j'ai toujours aimé écrire, oui. Mais sur la photographie, c'est la première fois que j'écris comme ça sur la photographie.
Ouais, ce sont des lettres, donc, hein, vous échangez avec Emmanuel Coach. Pourquoi lui?
Parce que c'est un ami et j'aime beaucoup son travail, j'aime beaucoup ses écritures, ses livres. Je l'estime beaucoup et voilà. Et on a eu cette idée de faire un livre sur la photographie fait par un philosophe et un photographe qui dialoguent ensemble.
Est-ce que vous avez appris des choses sur vous-même au cours de cet échange de lettres avec Emmanuel Ecoccia, sur votre pratique? Est-ce que vous avez compris des choses, justement, dans cet échange?
Oui, sûrement, sûrement. Chaque fois que je parle des photographies ou j'étais en workshop aux jeunes sur la photographie, j'apprends quelque chose et chaque réflexion me fait penser à quelque chose d'autre. Chaque fois, j'apprends quelque chose. Il y a des petites révélations comme ça qui me font très plaisir, d'ailleurs. Oui.
Une, par exemple?
Une chose que j'ai lue l'autre soir, elle n'est pas dans mon livre, malheureusement. Si j'avais su, je l'aurais mis dans le livre, mais je l'ai lu que l'autre soir. C'est un moine tibétain qui dit « La lumière, elle traverse tout, mais personne ne la possède. » Ça, j'ai trouvé merveilleux.
Bon, ce sera pour la réédition, alors, du livre. Justement, à propos de découverte, de transmission, de se connaître, vous avez enseigné pendant longtemps à l'ÉCAL, à Lausanne.
Oui.
C'était une activité qui était importante pour vous? Est-ce que cet échange avec de jeunes gens, c'était important?
J'aime bien transmettre ce que je connais, ce que je sais, et mon enthousiasme et ma passion pour la photographie. J'aime bien essayer de transmettre aux jeunes photographes.
Quel est le conseil que vous donnez aux jeunes gens?
Mais surtout d'être eux-mêmes, d'être sincère, d'être spontané, d'être eux-mêmes surtout.
Mais c'est compliqué aujourd'hui, parce que l'époque est un peu bizarre pour cela.
Oui.
Alors vous le disiez, pas de rétrospective tout de suite, vous attendrez d'être un peu plus âgé. Mais est-ce que la question de la postérité, ça vous importe, Paolo Roversi? Est-ce que vous avez envie de savoir que dans 50 ans, dans 100 ans, on fera des expositions de vos photographies?
Ah, j'aimerais bien, ça me ferait très plaisir, mais bien sûr, comme tout le monde, j'espère que mon œuvre elle part pas en poussière après ma disparition, comme moi, quoi. Mais qu'elle reste, et que des gens puissent savoir, et qu'elle puisse donner des émotions et de l'envie de travailler à des jeunes photographes.
Oui, parce que c'est quand même le paradoxe aussi de votre parcours jusqu'ici, c'est-à-dire que vous êtes un photographe dit de mode, c'est-à-dire que la mode, c'est justement quelque chose qui change tout le temps, mais vous, vous avez appliqué, vous avez tenu votre ligne toutes ces années. C'est ce qui fait que vous durez.
Oui, je ne sais pas si j'ai dur, mais j'ai quand même essayé d'être complètement un peu en dehors du fleuve de la mode qui coule très vite, qui change tous les 6 mois, 3 mois maintenant, et de rester un peu au bord et de pas me jeter sur la dernière vague, de pas être un photographe branché, mais de garder une certaine distance, ce qui m'a permis d'être un peu atemporel et un peu distant justement dans ça.
Un classique.
Devenir peut-être un classique.
Moi, je le crois. il me reste le temps de rappeler que cette exposition au Palais Galliera qui vous est consacrée va être visible jusqu'au 14 juillet. Comme ça, on peut y aller plusieurs fois. C'est une bonne chose. On peut s'y procurer le très beau catalogue. Vraiment une très belle impression, un soin que vous avez apporté à l'édition de ce catalogue chez Paris Musée. Et puis, bien sûr, je vais pouvoir le faire maintenant, lire votre correspondance avec le philosophe Emmanuel Ecoccia. C'est chez Gallimard, sous le titre « Lettres sur la lumière ». Merci beaucoup, Paolo Roversi, d'avoir été notre
invité.
Merci
à vous. Merci à vous. C'est un grand plaisir. Merci.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
À l'heure où les Britanniques ne semblent jurer que par le post-punk, on se demanderait presque où est passé le punk, le vrai, celui qui fait primer l'énergie et la radicalité sur la recherche esthétique. Alors rassurez-vous, il existe encore, pour preuve, le nouvel album du groupe londonien The Chisel, formé en 2020, récemment signé sur le label Pure Noise Records. The Chisel fait revivre des sous-genres comme le street punk, le punk hardcore et la oi. Avec la même urgence qui travaillaient leurs aînés d'Angelic Upstarts et The Business, The Chisel joue vite et fort, la conscience de classe chevillée au corps, une pinte de bière à la main. Les riffs de guitare sont efficaces, la batterie affirmée et les refrains entêtants. Sur cet album intitulé What a Fucking Nightmare, le groupe présente 16 morceaux qui sont autant d'hymnes à la gloire du punk. En voici un avec le morceau Bloodsucker, notre son du jour. C'était Bloodsucker de The Chisel, extrait de leur nouvel album What a Fucking Nightmare.
France Culture, le grand tour, le grand tour, grand tour. Marie Sorbier.
Bonsoir Marie, où êtes-vous ?
Bonsoir Arnaud, je suis à Amiens devant le FRAC Picardie qui nous accueille aujourd'hui dans le cadre de grand événement Le Printemps du Dessin, et on vient voir notamment l'exposition Danse Macabre de David Prudhomme. On nous y attend, on y va.
Je m'appelle Yvan Bourdet, je suis responsable de la programmation et des territoires au FRAC Picardie.
Merci de nous accueillir ici à Amiens. On entend déjà les sons de l'exposition que nous allons visiter. Mais peut-être juste un mot, cette exposition, elle a lieu dans le cadre d'un événement plus large qui s'appelle le Printemps du Dessin. Vous pourriez nous en dire deux mots ?
Le Printemps du Dessin a été créé par Drawing Now Art Fair, qui est le salon du dessin contemporain à Paris, avec l'idée de créer un grand temps fédérateur autour du dessin tout contemporain partout en France, avec différents formats, des expositions, des ateliers, des rencontres et beaucoup, beaucoup de rencontres avec les artistes, car c'est aussi la marque de fabrique de cet événement.
Et donc dans ce cadre-là, le FRAC ici à Amiens propose trois expositions.
Oui, trois expositions. Une exposition de David Prudhomme qui s'appelle Danse Macabre, une programmation vidéo d'Elika et d'Ayat et un accrochage de Camille Chastan qui s'appelle Mémorandum.
Vous nous faites visiter ?
Avec plaisir.
Alors là, on rentre dans une grande salle d'exposition, mur blanc, boîte blanche, avec plein de... Qu'est-ce que c'est, du dessin, de l'aquarelle ?
Il y a différentes techniques en fait qui sont proposées. Vous avez à la fois de la peinture, ici c'est de la peinture, après vous allez avoir de l'aquarelle et aussi vous avez du graphite tout simplement qui est derrière, qu'on attend un peu plus de manière un peu plus classique pour du dessin. Donc l'exposition Danse Macabre, c'était une invitation surtout faite par Karine Roma, qui est la commissaire de l'exposition, à travailler autour du motif de la danse macabre. Ce sujet, il est né pendant la crise du Covid-19, on s'en souvient tous malheureusement. Karine Roma était enfermée chez elle, elle a beaucoup réfléchi, elle a beaucoup lu sur l'histoire de l'art, et ce motif lui a semblé intéressant de voir comment on pouvait le réactiver aujourd'hui. Donc elle a appelé David Prudhomme, qui était très intéressé par le projet, mais d'abord un peu effrayé. C'est quelqu'un de très superstitieux, et travailler sur la danse macabre, il y a quelque chose qui peut faire un peu peur quand même, et donc on peut le comprendre. Ils ont beaucoup travaillé, ils ont beaucoup échangé tous les deux, ils ont fait beaucoup de recherches historiques aussi, parce que c'est un motif qui est présent pendant près de 600 ans dans l'histoire de l'art, et du coup on arrive à ce résultat-là.
Alors on voit beaucoup de grands formats, hein.
Beaucoup de grands formats, c'était un peu le point de départ aussi. David Prudhomme, il est plutôt bédéiste à la base. Donc là, c'était faire un pas de côté qui a été proposé par Karine Roma de travailler sur des très grands formats. On le voit ici, il y a surtout une très grande fresque en fait qui a été proposée, qui est faite sur papier. Très colorée aussi, ce qu'on n'attend pas forcément d'une danse macabre.
Oui, c'est même joyeux quand on arrive là, on voit du rose, du vert.
Mais la danse macabre, elle est joyeuse en fait. Dans le nom, on a l'impression qu'elle ne l'est pas, mais en fait, elle est très joyeuse et ils se sont beaucoup amusés à le faire et ça se sent en fait dans l'exposition. Et c'est un peu reprendre ce motif classique, où on avait donc toujours un vivant et un mort, et qui était dans un ordre très hiérarchique, où en fait on commençait par le pape, après il y avait l'empereur, et on descendait comme ça, avec le clergé, la monarchie, enfin voilà, on a tout le monde qui descend jusqu'au plus humble paysan, ça c'était le motif classique, et là il faut un petit pas de côté, c'est-à-dire qu'on est plus dans une danse qui va emmener tout le monde, vraiment tout le monde, en mélangeant toutes les classes sociales, et en essayant de mélanger tout le monde.
On voit les racines bédéistes. Alors, il n'y a pas de case, hein, mais quand même, cette frise là devant nous, elle raconte une histoire.
Ouais, il y a quand même une narration qui se fait ressentir par le dessin, par la couleur aussi. Et en fait, David Prudhomme joue aussi sur la fin de la frise avec en fait l'univers urbain, avec des piliers, des structures architecturales qui en fait viennent créer presque des cases dans cette grande fresque. Et ces motifs que vous retrouvez ici ont eu une postérité, on va dire, enfin ont été annoncés dans la ville d'Amiens avec une série d'affiches qui a été créée par David Prudhomme et d'une manière presque virale est venue en fait contaminer tout l'espace de la ville. Vous retrouvez donc un couple de vivants et de morts qui se baladaient sur fond jaune un peu partout dans Amiens, dans notre quotidien.
C'est une volonté du FRAC Picardie de sortir de ces murs. Je vous entends dire que là, des dessins de David Prudhomme se retrouvent dans les rues. Est-ce que c'est un choix de programmation aussi ?
C'est un choix de programmation. Ça fait aussi partie de l'ADN des FRAC aussi, d'être toujours dans cette volonté d'être hors les murs. On constitue une collection, on invite des artistes, mais aussi pour les présenter, pour montrer ses œuvres un peu partout en région et à l'international aussi. Mais on a beaucoup d'expositions en Picardie, pour notre part. Et donc, il y a deux principales invitations. La musique, qu'on entend aussi derrière nous.
Qu'est-ce que c'est, cette musique derrière ?
C'est une ritournelle qui a été écrite par Albin de la Simone, qui est notre artiste associé cette année, où Karine et David lui ont proposé de créer la musique, en tout cas de l'exposition. On retrouve aussi quelque chose d'un peu de clopinant, comme ça, on marche, il y a deux notes qui sont un peu répétées, un rythme un peu bizarre, et après il y a quelque chose d'assez choral qui monte dans la musique, et c'est ce côté de danse macabre qui nous rejoint tous. On prend tous conscience qu'on est égaux face à la mort, et du coup on se retrouve tous dedans.
Et ça donne évidemment un côté très immersif à cette exposition.
Ce qui était aussi un peu inédit pour nous, de travailler avec de la musique dans l'espace d'exposition, mais ce qui est assez intéressant. Et l'autre invitation, c'est Laurent Godet, qui a été invité à écrire un texte
sur la danse macabre. Ah oui, je l'ai vu à l'entrée.
Et il est reproduit à l'entrée, David Prudhomme l'a entièrement recopié à la main sur un très grand banc de papier qui est sur fond jaune encore, on retrouve la couleur du jaune, et l'intégralité du texte est ici. Mais c'est pareil, ce texte est amené à se poursuivre dans d'autres itinérances, en tout cas autour de l'exposition. Qui s'appelle la vitrine du cloître, parce qu'on est dans un ancien cloître et on a un espace qui est plutôt là pour montrer ce qu'on montre assez peu du dessin ou des travaux en cours. Ici, c'est une invitation à Camille Chastan, qui est une jeune artiste avec une proposition qui s'appelle Mémorandum, et elle présente en fait des carnets à dessin. C'est des objets qui font partie de son quotidien de recherche. Elle y dessine ses inspirations, ce qu'elle voit, les gens qui partagent sa vie, les animaux qui partagent sa vie aussi.
Oui, là, on a un dessin de chien, mais quasiment un chien mythologique, non ?
Mais il y a souvent aussi, oui, effectivement, ce côté mythologique. Il y a souvent aussi des gens, ses amis, c'est les gens qui partagent sa vie. Il y a son chat aussi, qui est assez souvent aussi, j'essaie de le voir si on ne le voit pas ici, mais on le voit assez souvent. Et aussi beaucoup de motifs. C'est une artiste qui travaille beaucoup sur le motif. Et en fait, elle a créé un grand papier peint qui recouvre l'intégralité de l'espace, où elle vient en fait déployer les pages qu'on ne peut pas voir de ses carnets. C'est assez le côté paradoxal de montrer, d'exposer des carnets sans pouvoir les manipuler. Il a fallu trouver un petit subterfuge en tout cas pour pouvoir en montrer toute la richesse.
Il y a encore beaucoup de couleurs.
Beaucoup de couleurs, ça fait du bien aussi. pour le printemps du dessin, c'est plutôt chouette. C'est aussi sur la question du motif qui revient et qui est très coloré ici. Est-ce que vous voulez qu'on aille faire un tour en réserve ?
Ah bah oui, je veux bien. Je veux bien voir ces collections. Ah là, on entre dans les réserves.
Donc, il y a quelques œuvres qui sont sorties, mais vous avez différentes manières de stocker. Vous avez à la fin des meubles à plomb ici, qu'on peut tirer ici. Et aussi ces grands rails, en fait, qui sont ici pour stocker les très grands formats.
C'est un peu magique, hein. On se demande ce qui va sortir quand vous ouvrez un tiroir.
Même, il y a toujours des tiroirs où je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ça, c'est des grands gravures sur bois qui sont frottées sur du papier ici avec du graphite, qui sont des œuvres de Damien de Roubaix, qui reprennent en gros des grands archétypes de l'histoire de l'art, des grands noms de l'histoire de l'art. Là, on reconnaît assez facilement les fleurs, les tournesols et les iris de Van Gogh qui sont repris ici en très grand format. Et ça, c'est une exposition qu'on avait eue au FRAC Picardie qui a donné lieu à une acquisition. Donc, c'est pas forcément la norme, c'est pas forcément obligatoire, mais ça peut déboucher aussi. C'est-à-dire que des collaborations avec des artistes vont amener aussi parfois sur des acquisitions. On peut aller par là aussi, c'est parce que c'est des œuvres que je connais un peu mieux. Attention juste au sol.
Alors là, vous venez de tirer un rail.
Et on a deux très grands formats de Clément Verger, qui est un artiste qu'on a acquis il y a quelques temps. Donc j'ai des grandes collections de dessins, mais on a quelques pas de côté. Ici, c'est de la photographie. Clément Verger qui va travailler ici autour de l'histoire de l'eucalyptus, comment il s'est répandu dans le monde avec les grands mouvements de conquête, d'exploration. Ici, il vient photographier une des plages, ou en tout cas d'où est originaire l'eucalyptus, sur un papier d'eucalyptus. Donc il va imprimer sur un papier d'eucalyptus avec un cadre pour l'encadrement qui est fait en eucalyptus. Donc on pousse aussi l'expérimentation dessus. Et ça, c'est un projet qui a été accompagné par le FRAC Picardie pendant plusieurs années. Et donc du coup, ça a pu amener aussi à une acquisition ici.
Alors pour finir, on peut peut-être dire que les entrées dans les FRAC sont gratuites, on peut venir quand on veut visiter les expositions, mais vous, vous allez bientôt quitter ce lieu-là.
L'idée, c'est de déménager effectivement dans quelques années, dans un lieu qui sera pas très loin d'ici, on sera de l'autre côté de la gare, donc on va pas très très loin. C'est l'idée de faire un gros pôle autour du dessin d'animation, de l'image animée, où il y aura donc le FRAC Picardie, les rendez-vous de la bande dessinée, donc le festival de bande dessinée de la ville d'Amiens, et WETSUM, qui est l'école d'animation 2D et 3D.
Donc jusqu'en 2027, on vient ici.
Ah, il faut venir ici.
Et les expositions là, qu'on a visitées sont visibles jusqu'à quand ?
Jusqu'au 1er juin.
Super. Merci beaucoup.
Merci.
Suite du Grand Tour demain, Marie Sorbier, où serez-vous ?
Demain, Arnaud, suite du Printemps du Dessin, avec cette fois-ci l'ouverture de la Foire du Dessin au Carreau du Temple à Paris.
Merci Marie, et à demain. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter et podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Vassy, Lise Ripoche et Emma Rouberti.